Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
الزلف الأول أهلا وسهلا ثم مرحبا بكم في منتدى راج الذي عودنا في الطبعة 26 من منتدى راج. Donc aujourd'hui on a choisi la thématique, donc خيرنا يعني الصحافة هي c'est le quatrième pouvoir dans tous les pays, يعني الدول المتقدمة. Donc توازيا مع الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر دونك خيرنا لا لا تيماتيك دو جوردي دونك انت يعني كما يقولوا خيرنا لا تيماتيك دو جوردي نديروا لو موفمون بوبولار يعني ديفي لا بريس موقع يعني لا بريس ديفي تاع لي ميديا اي لي زونجو. Donc, je commence par présenter nos chers conférenciers. Donc, à ma droite, M. Ihsen El-Khadi, journaliste, donc directeur de Maghreb Émergent et Radio M. À ma gauche, Mme Souhila Binali, journaliste à la chaîne Tawa. Donc, on a préféré de donner 15 minutes pour chacun et je commence par... Monsieur Ihsen El-Khadi. Merci. Bonne écoute.
Fadi, merci. Merci aux amis de Raj pour l'invitation. Alors, ce que je vous propose, c'est... باش نقدر نلقي المحاضرة تاعي بسرعة في الظرف 15 دقيقة اللي يعطاها لي المنظم. نقترح عليكم أن نديرها باللغة الفرنسية، اللغة اللي نتعامل معها يوميا في الحقل المدني تاعي، الحقل المهني تاعي. ولا كان فيها أسئلة بالعربية نجاوب بالعربية، ما في حتى مشكل. Alors, pour bien comprendre la situation de la presse d'aujourd'hui, on peut prendre comme point de départ la journée de ce vendredi. Ahmed Gaïd Salah a été la principale cible des manifestants aujourd'hui, ça on peut le comprendre. Mais si on regarde un petit peu, la deuxième cible, en tous les cas pas loin derrière, Dieu merci, mais quand même, une deuxième cible, c'était la presse. On a beaucoup critiqué la presse et c'est quelque chose qui est en train de monter. Et c'est, je pense, un symptôme assez édifiant et assez triste de la situation dans laquelle se trouve la presse algérienne en mai 2013, en 2019. Alors, pour bien comprendre pourquoi la presse a aussi mauvaise presse auprès du mouvement populaire, il faut s'arrêter quelques minutes sur la situation qu'elle a connue durant les années Bouteflika. Le tableau de la presse algérienne, les années Bouteflika, c'est le tableau d'un enfoncement dans l'arriération de l'industrie des médias. Nous avons, au niveau du Maghreb aujourd'hui, l'industrie des médias la plus faible. Alors, elle est faible rapportée au PIB, elle est faible rapportée à la population, elle est faible rapportée au statut qu'elle avait il y a 20 ans, au moment de la précédente ouverture démocratique, celle d'octobre 88. Et on peut comprendre rapidement cette faiblesse-là en l'analysant sur, en gros, trois vecteurs. Alors, le premier vecteur, c'est d'avoir bloqué l'évolution des groupes qui ont fait les années 90 dans la presse. L'évolution des groupes qui ont fait la presse dans les années 90, ce sont les groupes de la presse écrite. Leur modèle économique a été bloqué et on a empêché leur diversification et leur remontée en filière, leur remontée en valeur. J'en veux rapidement, pour exemple, le cas d'Al-Watan, qu'on a empêché d'occuper son nouveau siège social. Il a un siège social qui aurait pu lui permettre de se remettre sur ses pieds et qui est bloqué depuis 5 ans, on n'en parle pas assez. Il a été bloqué. C'est sur un artifice, un peu de la façon dont d'autres chefs d'entreprise ont vu leurs investissements bloqués. On a vu aussi la diversification d'Al-Khabar qui a été bloquée et l'évolution d'Al-Khabar aussi, la cession qui a été tentée avec le groupe Cévital qui a été elle aussi bloquée. Ça aurait pu servir à relancer le papier, à relancer ou à maintenir à flot l'édition papier. Donc, les groupes qui ont fait que la presse algérienne était en avance au Maghreb les années 90, les années 2000, quand on va au Maroc, c'était évident que l'Algérie était devant. Quand on va en Tunisie, on n'en parle même pas. Il y avait que Toufik Ben Brik, sans vouloir faire insulte aux autres journalistes camarades tunisiens, qui faisaient face à la dictature de Ben Ali. En Algérie, on était en avance. Alors, cette dynamique-là, elle s'est étiolée, et puis est arrivée dessus la crise de la filière papier, parce que le web est monté, et donc, comme partout dans le monde, le papier a reculé. Et donc, ce qui a fait un peu le fleuron et l'alibi démocratique des années post-guerre civile, c'est-à-dire nous avons une presse relativement libre, avec les caricatures de Dilem qui ont toujours servi d'alibi, le papier, le mot de Choukri Amari tous les matins, et d'autres enquêtes, j'en passe. Tout ça, finalement, est rentré en crise, et aujourd'hui, nous sommes en face d'une crise extrêmement aiguë de la presse papier. Arriération. Alors, le volet qui aurait pu contrebalancer cette arriération et ce déclin du modèle économique de la presse papier, c'est évidemment, c'est l'audiovisuel. C'est l'audiovisuel. Le printemps arabe nous a laissé penser, nous a laissé croire qu'il allait y avoir un essor de l'audiovisuel algérien dans la foulée de ce qui s'est passé dans le monde arabe, l'ouverture tunisienne. À Tunis, maintenant, quand on arrive, on a 40 radios périphériques sur la bande FM, rien que dans la région de Tunis. Eh ben ça, il y a eu des promesses, mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait, on sait pourquoi, parce que le président Bouteflika a toujours été hostile à l'ouverture et il a bloqué au maximum. Quand il a été obligé de concéder une ouverture, avec la loi de 2012, il s'est arrangé avec le soutien des services, etc., pour nous donner les possibilités de diffuser que à des groupes amis, donc totalement affiliés au pouvoir avec ces différentes variantes, et à les laisser précaires avec ce statut de bureau étranger. Donc on n'a pas de télévision algérienne au jour d'aujourd'hui, hein, il faut bien le comprendre, il n'y a pas de médias audiovisuels algériens, il n'en existe pas. Il existe des bureaux de télévision étrangère et pour la bande FM et la radio, on oublie complètement ça. On a toujours dit il n'y a pas de fréquence pour le privé et vous restez dans votre coin. Et donc de ce point de vue-là, l'Algérie est l'un des derniers pays en Afrique à être dans cette configuration de l'offre médiatique. Voilà. Évidemment, ceux qui ont pu accéder aux rares licences accordées, octroyées, ce sont majoritairement des oligarques proches du système. Les Haddad, les Tahkout, les Wild Zmirli, Arbarab n'a pas pu le faire parce qu'il n'était pas dans le premier carré, ou il était plutôt dans l'opposition. Et donc, et évidemment, les médias qui, Kanouf Moualet, Melloul, je cite pour exemple, essentiellement deux, Nahar ou Chorok. Bien. Ça, c'est de l'aération. Ça, c'est toute une filière d'activité de la production des médias qui est complètement plombé par ce modèle, par le fait que on peut pas beaucoup investir quand on n'a pas la licence pour être une télé algérienne, on peut pas beaucoup investir quand on doit passer par le faisceau internet pour ensuite aller sur le satellite à travers la Jordanie ou un autre spot, Istanbul ou ailleurs. C'est vraiment une chape de plomb qui a été maintenue sur cette activité-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau dans ce paysage désolant des années Bouteflika? C'est un peu la presse électronique. Je dis un peu parce que la presse électronique aussi a vécu l'archaïsme mental des années Bouteflika. C'est quoi l'archaïsme mental des années Bouteflika? C'est le refus d'aller vers le digital. Il faut jamais oublier que ce n'est qu'en décembre 2013 qu'on a basculé vers l'internet mobile. Avant, on n'aurait pas eu la scène qu'on est en train d'avoir maintenant avec quelques-uns d'entre vous qui tenaient le téléphone et regardaient vos réseaux sociaux. Voilà, décembre 2013. Je me rappelle que le patron de Huawei qui est arrivé à Alger en 2015. Huawei Algérie, il venait de Kaboul, il venait de l'Afghanistan, et quand il a appris que ça faisait juste 18 mois que Internet mobile avait été ouvert en Algérie, donc avec la 3G, il n'en revenait pas, parce que de là où il venait, c'était le cas depuis 2010. Voilà, donc vous situez un petit peu toute l'arriération. Et donc c'est tout l'environnement qui permet l'émergence des médias électroniques qui était en retard. Paiement électronique. Tous les modèles qui existent en Algérie fonctionnent sur un seul pied, c'est vente d'espace. TSA, nous, les autres médias sur le web, c'est vente d'espace. L'abonnement, ça marche très peu parce que l'abonnement, ça passe par l'électronique. On achète un abonnement et on paye par Internet. Les autres formules ont montré que ça pouvait pas marcher. Et encore, il faut vraiment que l'écosystème soit vraiment bien développé. Je parle pas de la mauvaise qualité de la connexion parce qu'il y a un système qui marche sur la tête, parce qu'on veut pas ouvrir suffisamment à des sous-traitants privés, etc. On a tout fait pour comprimer, et il y avait cette idée, elle existait, hein. Elle existe toujours à mon avis, dans le pouvoir politique algérien, chez les services, les officines, leur manière de voir le mouvement populaire, l'opinion, la société. Si on ouvre, en fait, ils ont cette idée. Le printemps arabe, c'est un printemps qui s'est fait grâce à Facebook. Le 14 janvier, sur le boulevard Bourguiba à Tunis, ce qui circule dans les officines, les rapports, etc., c'est que le rassemblement n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas l'Internet 3G. L'Internet 3G a permis à ceux qui étaient sur place d'envoyer des photos du début du rassemblement qui a donné du courage aux autres de venir. Résultat, à la fin de la journée, Ben Ali est dans l'avion et il s'en va. Et donc, il y avait une vraie hantise chez nous, vis-à-vis des réseaux sociaux qui s'est d'une certaine façon exprimé d'ailleurs pendant le bac. La ministre de l'éducation a fait un petit peu ce dont les autres rêvaient pour couper toute possibilité d'agréger de la population et de former des mouvements populaires dans l'espace public. Bon, cela n'exempte pas la faiblesse du modèle et de ceux qui ont développé l'Internet sur l'expression, l'édition électronique. Parce que peut-être n'ont pas réussi à créer des expériences fortes, ils n'ont pas réussi à se différencier suffisamment des réseaux sociaux. Je pense notamment à mes confrères de la presse arabophone sur le web qui pour la plupart d'entre eux réussi à suffisamment se professionnaliser pour quand on lit, quand on va sur un site, j'en cite aucun, sur un site d'expression arabophone. Je prends Adlan Mellah qui est devenu un leader d'opinion, un influenceur, notamment après son passage en prison. Adlan Mellah, la frontière entre le lanceur d'alerte, le style Amir Dezad et le journaliste professionnel, elle est très ténue. C'est-à-dire, et le public qui va suivre ça, il ne va plus faire la différence entre quelqu'un qui fait ce qu'il veut sur les réseaux sociaux et quelqu'un qui est tenu par un minimum d'exigences éthiques et professionnelles qui justifie qu'on le traite comme journaliste. Cela dit, la presse électronique a été combattue et on verra que dans la dernière partie du bouteflikisme, les répressions les plus sévères et les plus continues se sont essentiellement abattues sur les journalistes du web qui ont réussi à préserver une marge de manœuvre que leurs confrères des autres médias n'avaient pas. Est-ce que ça a changé depuis le 22 février? J'avance dans pour essayer de vite arriver sur la conclusion. Ce qui s'est passé depuis le 22 février, on va commencer par les médias les plus importants. Ils ont changé d'allégeance. Voilà. Saïd était en perte de vitesse déjà juste un petit peu avant le 22. Il y en a qui s'en sont rendus compte assez vite. Nahar était les premiers à changer d'allégeance. Ça s'est accéléré, c'est devenu spectaculaire depuis le 22 février. Et aujourd'hui, l'allégeance est à Ahmed Kayed Salah. On verra, c'est dans le service public avec Souhila, si ça obéit au même chemin, si c'est aussi grossier, aussi caricatural, mais nous on le constate dans les médias. Alors ça donne quoi? Ça donne une première posture où on nie l'existence du mouvement. Ils ont été pris de court, 22 février, 1er mars, à une adaptation où on a, en gros, il faut suivre le mouvement, sinon on est complètement débordé, donc on se met à suivre le mouvement, à une troisième phase qui est celle d'aujourd'hui, c'est où on essaie d'influencer le mouvement en faisant émerger des clivages factices, en essayant de protéger le nouveau maître, entre guillemets, pour moi il est loin d'être le maître, mais celui qu'on veut introniser en maître, je parle évidemment du chef d'état-major, et on va essayer de déformer la façon de rapporter les faits, et notamment par rapport au poids de telle ou telle expression, on saute sur la moindre occasion qui peut montrer le mouvement sous un visage pas favorable, etc. Ce travail-là continue à être le travail de sape dominant des médias privés, des médias télévision privés, sans qu'il y ait une possibilité pour les médias réellement pro-mouvement, dans l'intérêt civique et l'intérêt éventuellement aussi économique, je pense au journal Liberté par exemple, et de soutenir le mouvement, n'ont pas la possibilité de contrebalancer, parce que il y a quand même plusieurs années aujourd'hui de fidélisation, on rentre encore dans les cafés, il y en a qui ont cessé de suivre Nahar mais ou la Chorour, mais il y a encore une prédominance de la fréquentation de ces médias-là. Les médias électroniques sont peut-être ceux qui font la meilleure percée en ce moment. Pourquoi? Parce que le mouvement est venu de Facebook, il s'est agrégé, fédéré, il s'est donné une orientation sur Facebook, et donc les acteurs les plus, ceux qui rentrent en politique, ceux qui s'intéressent de nouveau à la vie publique, etc., sont plutôt des acteurs actifs sont des éléments actifs sur Internet, et donc c'est plutôt les sites électroniques qui en profitent, l'information, la presse électronique qui en profite, mais sans que pour autant cela ne donne tout de suite la possibilité pour elle de devenir concurrencer les grands médias. Concurrencer les grands médias, ce serait par exemple aujourd'hui d'avoir des médias électroniques qui passent par la télévision, et évidemment aussi éventuellement la télévision par satellite, pour venir toucher un public beaucoup plus populaire, beaucoup plus agile, beaucoup moins agile sur le web, d'une tranche d'âge peut-être un peu plus âgée, qui au moment des choix électoraux est un public qui compte beaucoup plus que les jeunes, parce que ceux qui font la révolution ne sont pas toujours vraiment ceux qui vont aller voter et faire les choix. Malheureusement, nous on souhaiterait que ça soit le cas, mais c'est pas évidemment que ça soit tout à fait le cas. Et donc il y a une catégorie d'Algériens qu'on ne voit pas beaucoup qui vont compter dans les mois à venir, parce qu'on reviendra aux urnes, et je l'espère, dans des conditions de démocratie et transparence. Au standard mondial, et à ce moment-là, ce type de médias influencés à travers des médias lourds, populaires, qui touchent des catégories d'Algériens qui ne sont pas nécessairement consommateurs de l'offre médiatique sur Internet, devient un enjeu important, et c'est peut-être l'enjeu le plus important des prochains mois. Alors évidemment, tout ça donne quoi? Ça donne que la presse, l'image de la presse est arrivée, elle est extrêmement négative. Je finis sur l'impact, et je fais un petit parallèle quand même avec 1988. En 88, les journalistes ont très vite joué un rôle d'avant-garde dans le mouvement d'ouverture, parce qu'ils étaient déjà organisés contre, on l'était à l'époque, tous secteur public. On avait créé le mouvement des journalistes algériens, le MJA, qui, aux côtés de la Ligue des droits de l'homme, du comité contre la torture, des collectifs de femmes, des collectifs de différents collectifs de la société civile, est très vite apparu comme une locomotive du changement, l'ouverture, etc. Et il a permis de piloter notamment la partie concernant la presse et le système qui a été mis en place, qui permettait la naissance de nouveaux médias. Les journalistes ont été considérés comme amis de l'ouverture à l'époque, pour une grande partie d'entre eux, et la presse d'ailleurs a gagné une partie de son prestige avant même qu'on se mette à assassiner des journalistes, et qu'il y ait une autre forme de légitimité qui, durant les années 90, a permis d'illuminer un petit peu ce métier, et qui nous a permis de tenir tête au bout de flipisme pendant les années 2000. Avant qu'il y ait cela, il y a eu quand même l'accompagnement du mouvement de 88, qui était un accompagnement extrêmement intéressant et extrêmement impliqué par une corporation qui était impliquée. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas de figure. Aujourd'hui, les seuls qui se battent, ce sont ceux qui sont dans le secteur public. Et je pense que, et là je fais un mea culpa, je pense que nous autres dans le secteur privé, on n'a peut-être pas suffisamment soutenu ces combats. Et je pense que l'une des idées avec lesquelles il faut sortir ce soir, c'est qu'il faudra être plus attentif et plus solidaire avec les combats qu'il y a dans le secteur civil, dans le service civil, et c'est essentiel, c'est très important. Moi, je m'en veux particulièrement de ne pas avoir plus travaillé sur cela, parce que je sais que c'est important, parce que je l'ai vécu entre 88 et 91. Et donc, si on enlève ces luttes-là, pour le reste, l'état de fragmentation des professionnels de la presse, l'état de faiblesse des médias papiers supposés les plus solides, vous avez vu la crise d'Al-Watan en ce moment, fait que l'impact de la presse, par exemple demain il y a une conférence, une pré-conférence qui va nous amener, j'espère, vers une conférence nationale de la société civile, il y a toutes sortes d'organisations, il n'y a pas une organisation de journalistes. Nous, dans la presse électronique, et je finis sur ça, on a essayé de s'organiser avec le syndicat des éditeurs de la presse électronique, le SAIPE. Bon, on a eu les RG qui ont débarqué à chaque fois qu'on a voulu faire une assemblée générale. On va pouvoir, j'espère, se réunir dans les prochaines semaines pour se structurer. Mais il est évident qu'il y a un gap dans l'organisation. Et tout ça, le fait que la presse ne soit pas suffisamment visible dans les combats démocratiques, le fait qu'elle continue à être dominée par le discours des médias lourds, populaires, qui sont cachéristes de nouvelles versions, version kaki, version cornet de bœuf, comme dit un des tweetos les plus inspirés sur la toile. Le fait qu'il y ait tout ça, ça débouche sur ce qu'on a vécu aujourd'hui, ce qu'on a vécu le vendredi dernier, la presse qui est critiquée dans la rue et qui est considérée un peu de manière indifférenciée comme étant un support de Gaël Salah et du système qui veut continuer.
Merci. Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.